niveau, on s'est trop habitué pendant trop longtemps à une sorte de, non pas de monothéisme, mais si j'ose dire de monolâtrie. Comme si le Dieu dont on parle était uniquement le Dieu d'Israël, alors qu'il s'agit du Dieu unique. Et bien entendu, depuis l'arrêt du temps prophétique, on s'est déshabitué de cette perspective de la prophétie hébraïque, qu'il s'agit d'un dévoilement de vérité à l'échelle de l'humanité entière, bien que, focalement, le gros plan concerne Israël. Est-ce que c'est clair? L'expérience me montre ça de plus en plus. Et vraiment, je vous demande de bien réfléchir à cela. Il faut faire éclater ces catégories purement exclusivistes du bon Dieu des Juifs, si j'ose dire, pour pouvoir comprendre ce que ces textes veulent nous dire, même lorsqu'ils parlent, parce que c'était, la plupart du temps, il y a eu un problème de clandestinité de la pensée juive, même lorsqu'ils parlent par allusion. Cette clandestinité-là, elle se trouve aussi dans la formulation des prophètes eux-mêmes, mais elle est très très forte dans les textes talmudiques ou dans les textes du Midrash. On était obligé de parler par allusion à cause de la pression et du risque de persécution d'ailleurs, mais à cause de la pression de la culture ambiante. Il y a toute une déclandestinisation de la pensée juive qui doit se faire dans l'étude des textes de la tradition orale mise par écrit. Par exemple, ça pourrait paraître paradoxal de trouver ce texte où on nous parle que les goïms ont fait des serments par rapport à l'histoire d'Israël. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Soudia ici, ce texte, formule les attendus théoriques de ce problème. Étant donné une situation d'exil qui doit être provisoire, mais dont la fin ne peut pas être anticipée, voici les six dimensions de l'engagement qui apparaissent. Alors, premièrement, vous rappelez, ne pas revenir Bechoma. Ça veut dire ne pas revenir à l'échelle collective, en force, Yachad et Beyat Hazaka, toujours, retenez bien, avant le temps. C'est indiqué par les deux versets qui ont été cités à la base de cet enseignement. Le verset de Rabbi Yehuda, Adion Pokdiotam, jusqu'au jour où je leur ferai signe, enfin je tiendrai compte d'eux, et d'autre part le verset du Cantique des Cantiques aussi, Ad Sheterpat, jusqu'à ce que ce soit le moment. Bon, donc premièrement, ne pas revenir Bechoma, deuxièmement, un deuxième serment d'Israël, de ne pas se révolter contre les nations. Je ne reviens pas sur les éclairages d'illustration. Troisièmement, que les goïms ont promis de ne pas trop persécuter Israël. Chez l'eau, Ishtarbedou, mais Israël, Yoter Midai. Là, il y a toute une réflexion pour elle-même. Ce mécanisme de la relation entre Israël dans l'exil et les goïms, qui est porteur du risque de persécution, et par conséquent, à la limite, on pourrait dire qu'au fond, la Torah n'en veut pas tellement aux goïms d'être antisémite, mais il ne faut pas exagérer. Ça pourrait aller jusque-là. Mais j'ajoute, même si ça peut paraître un peu exagéré, je ne sais pas comment dire, c'est que c'est dans les deux sens, c'est une relation intersubjective. Troisième serment, qu'Israël a promis de ne pas dévoiler la date de la fin ultime. De la fin ultime, et Rashi explique, et qui connaissait cette fin ultime? Les prophètes parmi les juifs de l'exil. Pour le temps pour le temps d'exil qu'il y a eu entre la destruction du premier temple et le deuxième temple, là, il n'y a pas de problème, il y avait des prophètes en ce temps-là, et d'autre part, la fin était connue, 70 ans. Cinquième serment, de ne pas agir de telle sorte que cette fin soit anticipée ou retardée. Là, peut-être il y a une difficulté de compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas agir de telle sorte que cette fin soit anticipée? Puisque nous savons qu'il y a une autre clause, que s'il y a un mérite suffisant, la fin pourrait être anticipée. Vous voyez la difficulté? Vous comprenez ma question? Quelle est la réponse? Puisque nous savons qu'il y a... Hein? J'ai pas entendu.
Les Chachamim qui ont dit qu'on se dirigeait vers cette solution de
jusqu'à... Non, ils ont dit... Attendez, il faut éclaircir. Ils ont dit à l'origine, il y a deux possibilités. Ou bien il y a un mérite suffisant, Zaha Arishena, cette fin voulue, acceptée par Dieu, homogène à l'histoire, viendra plus tôt. Lo Zaha Beita, en son temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne pas prier trop, par exemple, comme explique Rashi, pour que la fin arrive avant? Puisqu'il y a une clause que c'est possible. Très bien, très bien. Ça veut dire ne pas l'anticiper sans le mérite. S'il y a le mérite, bon, ça veut dire que cette anticipation est légitime. Mais s'il n'y a pas de mérite, l'anticipation peut être obtenue par grande prière, peut-être, mais ce serait une catastrophe parce que la situation générale de l'histoire n'est pas homogène. Est-ce que c'est clair? Bon. Ne pas retarder, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que, bien que il y a une occurrence possible que la fin arrive même avant son temps ou qu'elle arrive en son temps, faire comme si elle n'était pas arrivée. Ça, être en retard. Enfin, dernier serment, ne pas révéler. Shelui Galo est un sod, ne pas révéler le secret. Et là, nous avons vu que Rashi nous rappelle deux enseignements. Soda Ibur, ça veut dire la signification de l'histoire de l'exil, la fonction dernière fondamentale de l'histoire de l'exil, c'est que le peuple d'Israël se disperse et greffé sur l'humanité exactement comme un embryon est greffé sur sa matrice, et que ça veut dire que le sens messianique de l'histoire d'Israël peut risquer de mettre en question l'histoire des civilisations. Et à partir du moment où il y a une fin d'exil, la civilisation d'où Israël est sorti en fin d'exil se trouve être condamnée comme caduque. Ce qui est par exemple arrivé, le modèle le plus évident, à la sortie d'Égypte. C'était une énorme civilisation humaine qui portait en son sein un Israël embryonnaire, Israël en Égypte, et voilà que cet Israël naît à son histoire d'avenir, et l'Égypte entre dans le passé. Et si les Goïms prennent conscience du sens fondamental de cette relation entre les Juifs et eux, les réactions risquent d'être catastrophiques. Est-ce que l'idée est claire et suffisamment claire? Il y a ici à récupérer une intuition fondamentale qui nous est expliquée par ce texte. C'est qu'Israël se relie à l'humanité comme un fils à sa mère, mais dans l'état embryonnaire, en situation de vie. À un certain moment, arrive le temps de l'engendrement, arrive le temps de l'accouchement. Et il y a là, si vous voulez, une situation extrêmement difficile. Ou bien la mère accepte de mettre l'enfant au monde, ou bien elle craint, si j'ose l'expression, de mourir en couche. Et alors, cette naissance serait dangereuse, elle empêche. D'où les cataclysmes de cette relation entre les Juifs et les Goïms. Peut-être que si on arrive à réfléchir dans cette direction-là, en gardant cette image générale de toutes ces sources, l'image de l'accouchement, de l'engendrement, on comprend mieux l'ambiguïté des rapports entre les juifs et les juifs. Alors, je ne voudrais pas du tout que ça bascule dans une analyse psychanalytique, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre. Et ça, c'est le Sodaïbou. La base du calendrier, c'est la relation entre la lumière que la lune reçoit du soleil et le temps du soleil. C'est-à-dire, la civilisation est élaborée par les Goïms. Et voilà qu'elle est intégrée, reçue, dans la perspective de l'unification des valeurs, de la sanctification des valeurs, dans le principe d'unité, par un être qui est dans l'humanité tout en étant différent, et qui est l'être juif. Et c'est cela qui s'exprime dans la structure du calendrier. L'année solaire, c'est l'histoire des civilisations. Le mois lunaire, c'est l'histoire d'Israël, mais c'est relié. La lune reçoit sa lumière du soleil. Et cette lumière qui a son propre rythme de l'histoire du chinouille, elle est retransformée dans la perspective du chidouche par l'être juif. Ce saut-là on ne peut pas l'expliquer au Goyim. Parce que ça risque d'être catastrophique pour cet embryon rombard, ivri, qui est en train de chercher à naître à travers l'histoire des civilisations. Et alors, c'est là que je voudrais ajouter, ce qu'on n'a pas encore vu hier, ça voudrait dire donc que si le temps est arrivé, que tous ces signes jouent à la fois que le temps est venu, et bien tout se passe comme si, oui, que le temps est venu, où déjà les Juifs commencent à s'expliquer vis-à-vis des Goïms, et les Goïms commencent à entrevoir que c'est de ça qu'il s'agit. Si vous lisez la littérature juive contemporaine, même de façon non intentionnelle, non inconsciente, pas du tout en se basant sur ces thèmes, mais c'est le génie du peuple qui s'exprime à travers ses écrivains, pas du tout intentionnellement voulant donner l'enseignement de la tradition sur ce problème, mais existentiellement, eh bien, tout se passe comme si quelque chose de nouveau est apparu. Ne serait-ce qu'au niveau de l'échange littéraire entre les écrivains juifs et la culture ambiante dans laquelle ils s'expriment. Ça se passe comme si on commençait à découvrir qu'il s'agit de ça, et pas d'autre chose. Bien, deuxième explication de Rashi sur le Soda Egbour, sur le Sod, c'est plus le Soda Egbour, les Tahamé Mitzvot. C'est-à-dire que la raison, la finalité du genre de vie particulier des Juifs, le Shulchan Aruch, que l'on appelle la religion juive, eh bien, n'a pas le sens que le comportement religieux a chez les Goïms. C'est un comportement national. C'est un comportement anthropologique, qui bien entendu a sa dimension religieuse. Mais ce n'est pas du tout au même niveau. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout pour avoir une religion différente des Goïms que nous n'avons pas les mêmes rites. C'est parce que nous avons une identité humaine différente. Et dire cela, eh bien, ça rend impossible ces contrats d'émancipation, ces contrats d'assimilation aussi, d'ailleurs, au niveau culturel, et dans l'exemple, c'est ce qui s'est passé à la Révolution française avec le Sanhédrin de Napoléon, après la Révolution française avec le Sanhédrin de Napoléon. C'est-à-dire, vous êtes comme nous, mais différents au niveau de la religion, alors que la vérité est très différente. Nous ne sommes pas du tout comme, nous sommes une autre entité humaine reliée à l'humanité en général. Bon, je me suis exprimé de façon un peu schématique, mais j'espère que vous percevez ce que j'essaye d'exprimer là. C'est qu'il y a une espèce de, pas de malentendu, il y a une espèce de, comment dire, de...
Ça peut rejoindre
l'analogie. Il s'agit de ça. Il y a une espèce, si vous voulez, d'accord verbal. Non, je m'exprime très mal, je cherche un mot, une espèce de contrat, comment on dit ça en français, ça m'échappe complètement, hein? Oui, on va faire semblant que l'identité juive c'est une des confessions religieuses des autres pays, on va faire semblant, alors que dans les fonds des choses tout le monde est conscient qu'il y a une différence radicale de notre ordre. Quand par exemple les non-juifs, sans même savoir s'exprimer, et même prenant le risque que ça puisse apparaître pour de l'antisémitisme pur et simple, disent « mais après tout, vous n'êtes pas comme nous okay. ». Alors on fait semblant que ça n'est qu'au niveau religieux. Mais tout le monde sait très bien que c'est beaucoup plus profond. Parce qu'en général, ils parlent de juifs qui ne sont même pas pratiquants de cette religion-là, mais appartiennent au peuple dont cette religion serait la religion. Vous comprenez ? Et très souvent, des goyim nous disent, et en s'excusant, mais après tout, vous n'êtes pas comme nous, en s'excusant de prendre le risque de xénophobie, de d'antisémitisme. Et pourtant, dans ce dialogue, qui est un peu un dialogue de sourds, c'est très clair, le juif lui-même, ce juif qui réclame d'être absolument comme les autres, il ne veut pas s'entendre dire « non, vous êtes différent ». Celui-là même, dans le fond de lui-même, sait que quand même il est différent. Et s'en réclame. Alors, en travestissant cela dans des motivations, mais qui ne trompent personne. Nous sommes reliés à une autre histoire, nous avons une autre culture en général, on parle même pas la langue de cette culture. Et imaginez un juif qui ne parle pas l'hébreu, et qui, ni le yiddish, ni le judo arabe, ni aucune langue juive, et qui dirait « moi je suis différent de notre français, ben, j'ai une autre culture ». Laquelle ? Celle des juifs plus longs. Et oui, ça trompe personne au fond. Il y a un problème extrêmement gênant, on n'arrive pas à s'expliquer. On sait très bien qu'un goy et un juif, c'est la même chose. Ce sont des hommes de la même humanité, que cependant c'est différent. Mais comment expliquer ça? En quoi? Et alors on s'accuse mutuellement de quoi? De ne pas se dire la vérité. Mais finalement, ça se dévoile. Finalement, ça se dévoile. Il y a le cas particulier de la réaction de la conscience chrétienne, qui est diagnostiqué le Ainyana Eloki dans l'identité juive, mais elle l'a idolâtré dans une figure mythique. Parce qu'après tout, je ne sais pas si on a parlé de cela à ce propos, après tout, lorsque les chrétiens disent que Dieu s'est fait juif, ils disent à leur manière idolâtre exactement ce que Judas Lévi dit en disant que l'Ainyana Eloki se réalise à travers Israël. Vraiment, ils poussent ça à la limite d'une maquette païenne. Oui, dans la mentalité théologique issue, dérivée de la culture grecque, lorsque le chrétien dit qu'il croit dans l'incarnation de Dieu dans un juif, il ne dit pas dans un juif parce qu'il est un petit peu antisémite, il dit dans un homme. Il sait très bien qu'il devrait dire dans un juif. Est-ce qu'il ne dit pas à sa manière la même chose que Judas Lévi dans le Kuzari? Que l'Ainyana Eloki s'incarne, j'emploie leur mot, en Israël. Seulement il s'agit de l'histoire d'une nation, d'une humanité, à la limite, et non pas du mythe d'un individu. Comprenez comment c'est le même thème, mais qui est passé dans le registre païen. Et que cette figure païenne masque aux chrétiens l'Israël réel, dont en réalité, il parle quand il parle de sa foi, que Dieu s'est fait homme, en le disant à sa manière. Vous comprenez pourquoi un juif normal est la seule personne au monde qui ne peut pas être chrétien. Parce que ça consisterait pour un homme à se prendre pour Dieu. Or, c'est ça ce que le chrétien dit d'Israël à travers le Christ. Et quand on demande à un chrétien, mais comment vous expliquez ce mystère que lorsque Dieu a décidé de se faire homme, il a d'Afka choisi une famille juive? Il dit, c'est un mystère. Bon, mais c'est pas l'objet, mais je pourrais vous parler d'autres exemples de mystères de la théologie chrétienne. Par exemple, la Trinité. Par exemple, l'Immaculée Conception. C'est des secrets de famille juive. Seulement poussés à la limite de l'imagerie païenne. Imaginez cette idée d'une identité féminine éternellement féconde et éternellement vierge. La matrice des Toladot. Ils en ont fait la Vierge Marie. En lui donnant... Et évidemment, le nom de la sœur de Moïse. Pas pour rien. Etc, etc. Bon, je ne veux pas trop vous faire entrer dans ce monde impur. Okay. Mais c'est les structures, les thèmes d'identité de l'histoire d'Israël en général qui sont poussés à la limite de l'imagerie païenne. Et lorsque le chrétien effectue sa foi, il ne veut pas savoir, parce que c'est trop énorme, qu'en réalité, l'objet de son adoration, c'est le peuple juif, en tant qu'il est médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est ça qu'il vit dans sa théologie. Vous suivez cela? Alors vous imaginez l'effectuation d'une telle foi, les juifs existant sur terre. Alors on les mythifie au ciel, à travers une figure mythique, qui récapitule d'ailleurs l'histoire de tous les patriarches, de tous les personnages de la Bible. Pas pour rien qu'on reprend le thème du sacrifice d'Isaac au même âge d'ailleurs, mais un sacrifice réussi. Une contamination, comme on dit en littérature, une contamination de tous les thèmes des héros de l'histoire d'Israël sur une figure mythique. Et récapitulée, et qui est censé se substituer à l'Israël de la réalité historique. Alors les Juifs gênent. Les Juifs gênent l'adoration du Christ. Parce que le Christ est censé remplacer sous forme d'idole l'histoire juive. Et vous voyez la gêne, à quel point le chrétien qui effectue sa foi est gêné devant le fait juif, le fait concret. Il y a un des deux personnages de trop, le Christ ou Israël. Ils s'en sortent pas.
Quand Jean-Marie Paul demande à Dieu son pardon d'avoir tué pour une deuxième fois son fils, il reconnaît.
Oui, il est sur le chemin de le reconnaître. Et je suis persuadé personnellement, c'est juste une opinion personnelle, que si Jean-Marie Paul avait vécu et s'était imposé comme le pape de la rédemption dans l'histoire de l'Église, les rapports entre la chrétienté et Israël, pas seulement le peuple juif, auraient changé radicalement de nature. Il était sur le chemin de reconnaître ça. Mais il s'agit de reconnaître quoi? C'est que pendant 2000 ans, il y a eu deux faits parallèles. La ferveur du chrétien vis-à-vis de la figure du Christ et l'histoire d'Israël, que c'est la même chose dans l'histoire. Et qu'en réalité, cette foi avait été déplacée des Juifs à la figure du Christ et remplacée par la haine des Juifs. Et que finalement, il s'agit de découvrir que l'épuration de la foi chrétienne consisterait à dire d'Israël ce qu'elle pense du Christ. C'est la panique. Okay. Ah oui, les chrétiens en général. Pour eux, Dieu s'est fait homme chez un juif. C'est de ce problème que je parle. Okay. Et alors, quel est le contenu de cette foi? C'est la ferveur des goïms, littéralement des gentils, les nations, vis-à-vis de cette identité humaine qui est médiatrice entre le Dieu inaccessible et l'histoire des hommes. C'est récapitulé dans la figure d'une personne. Mais c'est exactement ce que la foi juive dit de l'histoire d'Israël en général. Et si nous avions le temps, je vous ferai lire des textes des évangiles en les décryptant, en les décodant. C'est-à-dire ces textes ont été d'abord rédigés en araméen et traduits en grec. Changement de registre radical. Je vais vous dire une chose que vous n'avez peut-être jamais entendue, vous ne trouverez jamais ailleurs probablement. C'est que ce n'est pas ce que les juifs prétendent qu'en réalité les évangiles sont sans le savoir. C'est que les rédacteurs des évangiles ont écrit ça intentionnellement, en laissant les clés sur les serrures et en disant « à la fin des temps, vous comprendrez ». Est-ce que c'est clair ce que je dis?
Non.
Je veux dire que c'est pas que dans la controverse théologique entre juifs et chrétiens, les juifs prétendent que ce que les chrétiens disent du Christ, en réalité, il faut le comprendre de l'histoire d'Israël. C'est que les rédacteurs des évangiles, les fondateurs de la foi chrétienne, ont voulu faire cela, présenter l'image de... Est-ce que j'ai un évangile ici? Présenter l'image. Et, c'est pas grave. C'est-à-dire, c'est un livre de travail, c'est pas un livre pieux. C'est en général la Bible dont je me sers des chrétiens, c'est la Bible seconde. C'est celle qui est le plus proche du texte originel. Mais il y a d'autres Bibles très bien écrites, en particulier la Bible de Jérusalem, des Louis-Gay, très très bien écrite. Mais si vous voulez avoir un aperçu d'une foi chrétienne débarrassée du jargon théologique, lisez la Bible de Darby, une des sectes protestantes françaises. Ça y est, on dit Mazel Tov. Pardon. Un certificat d'un côté juif. Alors on verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, c'est une petite communauté protestante qui est en France, dans la région du Jura, près de la Suisse, et où il y a eu énormément de juifs sauvés par eux pendant l'occupation, et en particulier le premier conseil national des éclaireurs juste après la guerre a eu lieu chez eux au Chambon-sur-Lignon. Bon, le jeu de mots, vous le voyez tout de suite. Rendez-vous au Chambon. Ça vous dit quelque chose, Chambon-sur-Lignon? Bon, c'est une grande date dans l'histoire du mouvement des éclaireurs. Et alors, c'est là que j'ai connu des darbistes. Si vous tombez un jour sur la Bible de Darby, vous lirez un style chrétien protestant français différent du jargon théologique. Les chrétiens extrêmement fervents. Et alors, très souvent, par exemple, vous avez des théologiens chrétiens qui vous diront dans une envolée lyrique, c'est arrivé souvent même au Père Dubois ou au Père Riquet, de s'adresser par exemple à un public où il y avait des mariages mixtes, en fait, des chrétiens mariés avec des juifs mariés avec des chrétiens, et disant aux femmes chrétiennes qui avaient des maris juifs inversement, faites attention à votre mari ou à votre femme juive, ils ont une étincelle de Dieu en eux. D'où ça leur sort de la bouche? Comment ça vient de leur foi? Vous voyez? Et alors pendant 2000 ans, ils étaient empêtrés là-dedans. Combien de fois les chrétiens m'ont dit, la seule chose qui me gêne dans le christianisme, c'est qu'il était juif. Ça va jusque-là. C'est très difficile pour eux. Alors, très souvent dans les colloques où je participe, je dis à la fin toujours la même chose. Je dis, écoutez, pendant 2000 ans, on s'est pas parlé. C'est vrai, pendant 2000 ans, on s'est pas parlé. Quand il y a eu des disputationes, comme on disait au Moyen-Âge, le juif qui avait le courage de gagner on l'attendait à la porte pour le fusiller fortement, mais pas du regard. Et on dit, pendant 2000 ans, on s'est pas parlé. Alors, pour arriver à comprendre de quoi on parle, il faut disposer au moins de quatre langues de base. L'hébreu et l'araméen, le grec et le latin, plus une langue pour se parler. Et qu'on s'enferme une fois, quelques théologiens juifs, quelques théologiens chrétiens, avec ces cinq langues, et puis qu'on se parle au niveau des cinq langues, et qu'on voit de quoi on parle. Et ça ne s'est jamais fait. Oui. Et puis, j'aurais dit, moi je suis prêt à étudier un chapitre des évangiles avec les théologiens que vous voudrez, en grec et en latin, à une condition. C'est que vous lisiez avec moi trois lignes du Talmud. Les trois lignes, ça suffit. Okay? Juste, pardon ?
Choisissez les
trois lignes. Oui, même ils peuvent choisir. Je vous raconte une histoire. Et là, je ne sais pas si je vais le raconter. L'histoire du Maharal. Le Maharal, c'est un des grands commentateurs de Rashi. Il a écrit un commentaire de Rashi qui est une œuvre extrêmement importante qui s'appelle le Gourarié. D'ailleurs, on a eu à Maharal un des descendants du Maharal qui s'appelle Gourarié. Il était la troisième promotion. Menachem Gourarié, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, il nous est venu du Bédard. Et alors, en ligne directe de Bruxelles. Et alors, un jour, il y a un étudiant rabbin qui vient voir pour avoir un certificat d'examen de rabbinisme. Alors, le Maharal lui demande, qu'est-ce que tu as appris? Alors, il dit, j'ai appris la moitié du Talmud. Je vais raconter ça. Alors le Maharal lui dit, je ne peux pas t'interroger sur le Talmud, parce que chaque fois que je vais te dire une page, tu vas me dire c'est dans l'autre moitié. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu connais vraiment? Là, je connais vraiment le commentaire de Rashi. Alors le Maharal lui répond, si tu connais vraiment le commentaire de Rashi, tu peux me remplacer. Tu n'as pas besoin de certificat. Bon, je referme la parenthèse. Non, mais pour vous dire, c'est que il faut s'initier à la manière dont l'autre pense. Or, pendant 2000 ans, ils ont projeté sur l'identité juive leur propre catégorie. Et par conséquent, tant qu'ils n'apprendront pas à inverser avec nous, et que nous n'étudierons pas inverser de chez eux avec eux, mais dans les langues originelles, on ne sait pas de quoi on parle. Vous comprenez à peu près le problème. Alors, je vais faire ma parenthèse. J'ai ceci, d'un point de vue historique. Est arrivé un stade de l'histoire de la Judée où un certain nombre de juifs ont diagnostiqué que l'Empire romain allait commencer et écraser la Judée. Et qu'on entrait dans une histoire de 2000 ans de Rome. Alors ils ont eu, je vous schématise beaucoup, mais si ça vous intéresse, posez-moi des questions, je vous expliquerai dans les détails. C'est la première secte des judéo-chrétiens, des fondateurs du christianisme. Il n'y a pas de Christ là-dedans. Il y a des juifs qui vont décider une stratégie que je vais vous décrire.
Hein ? Les Esséniens ?
Non, pas les Esséniens. C'est les judéo-chrétiens. D'ailleurs, les judéo-chrétiens sortent des pharisiens, pas des esséniens. Ne vous trompez pas. Okay? Les esséniens, c'était une toute autre secte mystique, ils parlent des mêmes choses, mais ça n'a rien à voir avec le christianisme. Et alors,
le calcul qu'ils ont fait,
Esaü triomphe sur Jacob. Rome triomphe sur la Judée. Et on a perdu la guerre. Ça veut dire que, à vue humaine, politique, nationale, la Judée rentre dans l'exil de Rome. Le peuple d'Israël rentre dans l'exil de Rome. Alors, il y a une partie du peuple juif qui a décidé de jouer une carte que j'appellerai le messianisme du fils de Joseph. Et tout va se remettre en place dans ce que vous avez appris. Okay. Comment ? C'est-à-dire de rentrer dans Rome et d'essayer de vaincre l'ennemi sur ses arrières. Vous savez, à peu près comme quand on fait un parachutage de soldats habillés avec l'uniforme de l'ennemi derrière la ligne ennemie pour prendre l'ennemi par... C'est ce qu'ils ont décidé de faire. On va se faire romain et on va judaïser Rome. C'était le complot des judéo-chrétiens. Les rabbins ont interdit. Bon. Et alors, là-dessus se développe toute une théologie. Alors, qu'est-ce qu'ils présentent comme médiateur? Qu'est-ce qu'ils proposent comme médiateur aux goïms, aux païens, avec l'objectif de judaïser l'Empire romain? Et ils se sont tellement pris dans leur jeu que depuis l'origine, les chrétiens de Rome se prétendent être les vrais juifs. Okay? Et ils ne se cachent pas. Nous sommes les vrais juifs, en tant que romains. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Judaïser Rome. Okay? Seulement, ils se sont fait avoir par Rome. Vous comprenez? Et tout de suite, les rabbins ont interdit cette stratégie. Comme pas cachère et voué à l'échec. Et effectivement, l'échec est arrivé très vite. Je veux dire, très rapidement, les chrétiens eux-mêmes ont oublié de quoi il s'agissait à l'origine et que je vais vous décrire. Je ne fais pour le moment qu'une introduction. C'est-à-dire, ils ont repris la ligne de messianité de type Joseph en la poussant à la limite. C'est-à-dire, ce Joseph qui avait comme tentative messianique de sanctifier la civilisation égyptienne en tant qu'hébreu est resté hébreu, camouflé en égyptien, mais il est resté hébreu. Et au moment de l'interpellation d'identité, il enlève le masque, il jette son vêtement dans les bras de la femme de Potiphar. Okay? Tandis que la fondation du christianisme, c'est la messianité d'un Joseph qui ira jusqu'au bout, qui deviendra romain pour le salut du monde. Et qu'est-ce qu'il présente comme Messie sauveur de l'humanité, la figure d'Israël se sacrifiant en tant qu'Israël pour sauver l'humanité? C'est ce qu'il demande au peuple juif de faire, ce qu'il raconte dans l'histoire de Passion. Et comme le peuple juif a refusé, il le déclare traître. Comment s'appelle le traître du récit de la Passion, comme par hasard Judas? C'est-à-dire, c'est l'antagonisme Judas-Joseph qui est raconté dans la Passion. Mais un Joseph qui va jusqu'au bout, qui devient romain. Judas a refusé. Qu'est-ce que c'est Judas? C'est le juif restant judéen. Vous comprenez? Une petite parenthèse avant d'aller plus loin, puis je vais vous citer un texte où il y a une clé sur la serrure, comme je vous ai dit. C'est ceci. Pendant 2000 ans, on a fait semblant de croire que la rivalité entre l'Église et Israël, c'était la rivalité de deux Israëls. Israël selon la chair, le Dieu jaloux, le Dieu de père, l'Israël selon l'esprit, le Dieu d'amour, le Dieu de fils. Vous voyez les légendes. Okay? Et vous savez très bien que c'est faux. Okay? Que dans la tradition juive, il y a les deux dimensions. Il y a Avaïra, etc. Et ils ont projeté un mythe païen là-dessus. Et en réalité, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la rivalité de deux diasporas d'Israël qui avaient pour objectif, en tant que diaspora, le même objectif, sanctifier la civilisation extérieure. Mais avec une différence de nature. L'une, la chrétienne, qui a changé de véhicule et national et culturel en optant pour le véhicule gréco-romain. L'autre, la juive, qui restait fidèle à son identité hébraïque, et c'était les juifs de l'exil. Les uns, c'est Joseph, et les autres, c'est Judas. Les juifs, c'est Judas, et les autres, c'est un Joseph, pas cachère, pas Yosef Hatzadik, du récit de l'Égypte, mais ce même récit devenant romain mamache. Vous avez compris ce que je veux dire? Or, ceci nous est raconté dans la généalogie qui est développée par le premier chapitre de Matthieu, qui s'appelait Matatiaou, Ken, ce Matthieu dont je vous ai parlé. Il n'a qu'un cheveu, mais je vais vous lire cette généalogie. Voilà un exemple C'est-à-dire que les rédacteurs des évangiles disent clairement ce qu'ils ont l'intention de faire. Et avec une allusion qui se trouve dans les actes de Saint Paul, vous allez me demander, mais où tu as appris tout ça? Au séminaire catholique. Non, je plaisante. Et que Saint Paul dit en clair. Les promesses, l'alliance, les bénédictions, tout est réservé à Israël. Et vous verrez ça à la fin des temps. À la fin des temps, on y est. À la fin de ces temps-là. Okay. C'est le temps où les chrétiens commencent à balbutier. Ah oui, c'est vous. Okay. Alors voilà ce qui se passe. Je vais vous lire exactement comme c'est écrit dans cette Bible. Ne croyez pas que bien que c'est un certain second qui l'a écrit, que c'est une Bible secondaire. Mais, alors Matthieu. Voilà, le premier chapitre commence comme ça. généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et là, on va nous donner trois paragraphes où il y a 3 × 14 générations. Et ce thème de 14 générations, c'est un thème du Midrash. Vous vous rappelez, j'ai fait allusion déjà au dernier cours. C'est-à-dire, c'est la lumière de la lune, l'apogée, c'est à la 14e génération, comme le 14e jour de la lune. Bon, vous savez ça. Alors, on nous raconte d'abord, entendez bien, dans les premiers groupes de 14 générations, Abraham en rendra Isaac. Jusque-là, ça va. Isaac engendra Jacob, ça va encore. Alors entendez bien, Jacob engendra Judas et ses frères. Alors, déjà il y a une clé. Bien. Jacob engendra Judas et ses frères. Là on va nous raconter le temps hébraïque, où l'option de messianité est celle de Judas, pas celle de Joseph. Vous suivez ? Bon. Et après, Judas engendra de Tamar, Parès et Zara. Bon, je vous lis en Avodah Zara là. C'est Zerah et Pérez. Bon, je vois rien, mais je vais voir. Et alors, ensuite, les descendants de Judas par Tamar, on arrive à Boaz engendra Oved de Ruth, Oved engendra Ishaï, Ishaï engendra David. Et c'est la 14e génération, jusque-là c'est caché. Okay. Ensuite, le roi David engendra Salomon, etc., etc. On arrive au bout de 14 générations, Josias engendra Yechonia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. 14 générations après, c'est la déportation de Babylone, la fin du Baït Rishon. Okay. Après, troisième groupe de 14 générations, après la déportation à Babylone, Yechonia engendra Shalatiel, etc. Alors on arrive vers la fin, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Qu'est-ce qui se passe là? Ça veut dire, on nous raconte d'abord, c'est clair, on nous raconte d'abord la généalogie d'Israël selon la Torah. C'est que, au moment où apparaît, après Jacob, c'est cette bifurcation, messianité selon Joseph, échec, la femme de Potiphar, réaction de Judas, par Tamar, Ken, le message de la Torah, c'est que devant ces deux éventualités, la messianité de Joseph, il faut toujours jouer, essayer. C'est la fonction de la diaspora. Mais elle aboutit à l'échec. Et quand cet échec arrive, c'est Judas qui continue les toladotes, qui continue l'histoire. Ça, c'est le judaïsme. Alors, on nous rappelle, ça, c'est le judaïsme. Jacob engendra Judas et ses frères. D'où ça sort Judas et ses frères? Nous, on connaît Joseph et ses frères. Ken. Bon. Vous voyez que déjà, c'est indiqué. Alors, à la fin, on dit ce qu'on veut faire. Ils ont besoin d'un Jacob qui engendrerait un Joseph duquel va naître le Messie qu'ils veulent faire. Et qui c'est l'antagoniste de ce Messie fils de Joseph? Un certain Judas. Et c'est clair. Alors, comme par hasard, il y a 12 apôtres, puisqu'il y avait 12 enfants de Jacob, et le Satan de l'histoire, c'est le Judas. Alors, qui ça peut tromper? Ça veut dire que les rédacteurs des évangiles ont dit en clair ce qu'ils voulaient faire. Nous allons fonder une messianité d'origine juive de type Joseph. Et nous allons aller à Rome, transfigurer Rome de l'intérieur. Ils se sont fait avoir par Rome. Vous avez compris le problème? Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire concrète de la diaspora? Pendant 2000 ans, une rivalité de deux diasporas d'Israël. L'une à la manière de Joseph, et l'autre à la manière de Judas. À la manière de Judas, c'était les Juifs. À la manière de Joseph, c'est devenu les chrétiens. Vous voyez pourquoi je vous dis souvent, cette ligne d'engagement juif de type Joseph a cet écueil-là, le risque d'aller vers une aventure de type chrétienne. Vous avez compris? Un exemple. C'est simplement une illustration que je vous donne pour vous indiquer cela, que les évangélistes étaient conscients de ce qu'ils voulaient fonder. Alors ils ont fondé une figure messianique qui récapitule l'histoire d'Israël en tant que fils de Joseph, et qui se sacrifie pour en tant que juif pour le salut de l'humanité. Ils ont voulu mettre une croix sur Israël, alors ils ont mis Israël sur la croix.
Mais il aurait fallu qu'ils le prévoient d'abord.
Qu'ils le prévoient quoi?
Ils prévoient dans leur plan. Ils ont mis Israël sur la mort de Jésus-Christ.
Mais non, tu raisonnes comme s'il y a eu un personnage qui est Jésus-Christ. J'essaie de nous expliquer, même si je mettrais 10 ans, que c'est une figure mythique de récits, de mythes des religions à sauveur, et que cette figure mythique est censée représenter l'histoire d'Israël. Alors on raconte une histoire qui est composé au niveau d'un livre très sérieux, du point de vue de un mythe de religion à sauveur, et qui va récapituler par le phénomène qu'on appelle en littérature la contamination littéraire sur cette figure tous les grands thèmes des grands héros de l'histoire d'Israël. Comment ? Non, ce qui a existé, c'est les premiers chrétiens, et ils vous racontent l'objet de leur croyance. Ce qui existe, c'est une figure qui est objet de croyance, et pas un personnage historique. Si ce personnage historique avait existé comme personnage historique, il serait monstrueux. Un juif se prenant pour Dieu et racontant des bêtises à la païenne. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je vais vous dire. Laissez-moi parler. Il y a un fondateur de secte qui, d'ailleurs, d'après le Talmud, s'appelle Yohanan, et pas du tout, et dont la figure est décrite chez le Jean-Baptiste de l'Évangile. Okay? Un fondateur de secte. Mais le Christ dont parlent les évangiles, c'est une figure qui est incarnée sur un fondateur de secte. Saint Paul lui-même se fiche éperdument de l'histoire concrète du personnage en question. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est l'objet de croyance. Cet objet de croyance n'a jamais existé. D'ailleurs, ça les gêne que s'il existe, il est juif. Okay. Je vais vous dire, il y a 4 récits parallèles. Si un jour ça vous intéresse, vous pouvez faire une thèse de doctorat là-dessus. Il y a 4 récits parallèles avec des femmes analogues, avec des péripéties analogues dans les évangiles. Il y a le récit de l'histoire de Jean-Baptiste. Et c'est de lui dont parle le Talmud en parlant de Yohanan Anazouf. Okay. Et puis, ce récit, c'est le modèle de 3 autres récits. Le récit d'un certain Jésus, et quand le texte ne dit que Jésus, sans mettre Christ. D'autre part, un récit purement spiritualiste, purement gnostique, un récit du Christ, d'un troisième personnage. Et après, on vous dit l'un c'est l'autre, et on vous parle d'un quatrième personnage qui s'appelle Jésus-Christ, que l'un est incarné dans l'autre. Bon, ce sont des problèmes de théologie auxquels vous n'êtes pas familier. Okay? Alors, vous pouvez avoir vos 4 lectures parallèles de la même histoire racontée 4 fois, l'une s'entremêlant à l'autre. Faites l'analyse des textes, ce que j'ai fait, et je les ai fait en grec. Okay. Et vous verrez qu'il y a des dominos de lecture qui renvoient à des thèmes du Midrash. Il n'y a qu'un juif qui peut comprendre ce qui a été écrit là-dedans. Vous voyez le problème. Ça a été écrit par des faussaires de génie, des juifs. Okay. Ils ont fabriqué, sur des données de la tradition juive, la plus profonde, un mythe proposé aux païens de l'Empire romain, avec pour objectif, je réponds à ta question, c'est la question à laquelle je réponds. Pourquoi ils ont fait ça ? Avec pour objectif de judaïser Rome et d'avoir Rome par la religion, alors que par l'histoire militaire, on était battu. Voilà, grosso modo, je voulais en schématiser. Alors, dès que les rabbins ont été au courant de ce projet, ils ont interdit. Alors, les judéo-chrétiens sont devenus anti-juifs, anti-rabbinistes. Et dès l'origine, il y a un anti-judaïsme inhérent au mythe chrétien. Qui va nous empêcher de faire ça ? À cause de qui ça ne va pas réussir ? À cause de ce traître qui s'appelle Judas, ça veut dire les juifs. Les juifs restaient juifs, si vous voulez. Vous comprenez quelle est l'histoire ? Bon. Et vous voyez à quel point c'est simple. Vraiment, comme d'habitude, et vous avez dû avoir cette surprise souvent cette année, c'est les choses les plus simples qui sont cachées. Et c'est très simple. Leur foi, leur ferveur, c'est que l'être d'Israël, comme en parle la tradition juive de l'origine hébraïque, et le médiateur entre Dieu et les nations, et ils en ont fait une religion païenne. Alors que nous vivons cette histoire, c'est la grande différence, c'est que le chrétien croit au Messie, alors que les juifs vivent l'histoire du Messie. Et ils nous ont fait vivre cette histoire. Pendant 2000 ans, la crucifixion, on est arrivé, sans qu'ils s'en rendent compte, à la résurrection, et ils continuent avec la crucifixion. La résurrection a déjà eu lieu, la Pâque est déjà arrivée, c'est l'État d'Israël.
Il a été condamné parce qu'il
n'était
pas
goy
Israël.
Qui Que veut dire qui
Rambam, quand il dit qu'il a été condamné parce qu'il n'était pas goy Israël.
Non, et ensuite, Israël, je vais vous dire.
Il ne pouvait pas libérer Israël,
non, non. Vers Israël. Non, je vais vous dire. Et ensuite, lorsqu'il y a eu cette controverse entre les théologiens juifs et les théologiens chrétiens, a posteriori de tout cela, alors on a discuté sur qu'est-ce que vous attribuez à ce Messie. Et vous voyez bien qu'il ne fonctionne pas comme il faudrait d'après la tradition juive, mais tout ça est secondaire. C'est-à-dire, les chrétiens ne réclament des juifs qu'une seule chose. Dites-nous qu'il a existé. Maintenant, qui il est, nous savons. Et alors, les juifs se gargarisent parce que c'est un orgueil épouvantable. Nous leur avons donné leur Dieu. Disons, oui, ce n'était qu'un juif. Un grand juif, un rabbin, tout ce que vous voudrez, un rabbi. Okay. Et les chrétiens rigolent, tu sais pas de quoi tu parles. Tout ce qu'on te demande, c'est donne-nous la fiche d'état civil. Et nous, on sait ce qu'il y a dedans. Vous pouvez pas comprendre, vous les juifs, vous avez un voile. C'est pas en quoi vous croyez. Nous croyons. C'est les chrétiens qui parlent. Et on tombe chaque fois dans le piège. Et je veux dire plus. Il y a dans cette attitude des historiens juifs, vis-à-vis de la conscience chrétienne, quelque chose de très grave. Une espèce de mépris sous-jacent les analyses historiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, bien sûr, nous sommes très fiers de vous avoir donné ce personnage, mais vous êtes des australopithèques, des idolâtres primitifs qui adoraient Dieu dans la figure d'un juif. Et vous croyez que le chrétien n'entend pas ça, okay? Que d'une part, on va lui authentifier, oui, c'est un juif de chez nous. Mais d'autre part, on est une attitude méprisante, mais vous êtes des gamins idolâtres. Okay? Et ne croyez pas que le chrétien encaisse ça sans réagir. Bon, un jour j'ai participé, je ne sais pas si vous en avez parlé, avec des rites de religion cannibale.